Salut à toutes, salut à tous. Vous êtes sur RTF 95.4 MHz. Vous écoutez les barricades mystérieuses à notre programme aujourd'hui de la musique classique et de livres, de la littérature. Musique classique, j'ai trouvé des choses un petit peu étonnantes ou peu connues ou qui sortent du commun. Voilà, vous verrez bien tout à l'heure. Et puis alors, les livres... Un livre de Alain Chiffre, Le dictionnaire amoureux du bonheur, un gros livre, ce qui voudrait dire que c'est difficile de parler du bonheur, ou qu'en tout cas qu'il y a beaucoup de façons de l'atteindre. Et puis alors un petit roman que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, qui est de Julien Bouissou, et je crois que Julien Bouissou est un Limousin d'origine. Et c'est un joli petit roman qui s'appelle « Juste avant la frontière ». Voilà, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors, premier morceau de cette émission pour cette semaine. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le marimba ? Alors, si vous ne savez pas, ben, vous savez peut-être ce que c'est que le xylophone. Alors, c'est un peu pareil, c'est-à-dire ce sont des lames de bois qui sont de plus ou moins longues, qui sont sur une sorte de support. Et on joue dessus avec des maillets. On peut avoir jusqu'à 2 maillets par main, et quelquefois même plus, mais ça devient quand même acrobatique. Et on joue dessus les notes, comme sur un piano. Alors ça a une sonorité particulière, très utilisée dans la musique brésilienne, très utilisée aussi dans le jazz. Mais là, il s'agit de musique classique, et c'est interprété par le trio Esserneuf. Alors ce sont 3 jeunes gens de la classe de percussion, ils ont fait un peu tout, y compris la classe de percussion, je crois, du SUB de Paris, et ils ont décidé de monter un trio à eux trois, et donc un trio avec 3 marimbas. Eh oui, 3 marimbas. Voilà, bah, je vous propose d'écouter, pour commencer, une tarentelle styrienne de Claude Debussy. Évidemment, il s'agit d'un arrangement, donc pour 3 marimbas, c'est les membres du trio Esserneuf sont Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet. Thank you. Voilà, je trouve que finalement l'inspiration de Debussy se prête assez bien à cette interprétation par trois marimbas du groupe SR9. On aura peut-être l'occasion d'en écouter d'autres parce qu'ils jouent des choses très variées. Ils adaptent des musiciens les plus divers, y compris des musiciens baroques comme Forqueray, Handel, Scarlatti, enfin, et aussi de la musique contemporaine, bien sûr. Alors là, je vais vous proposer d'entendre un air. Un air de Mozart. Alors vous allez me dire, un air de Mozart. D'accord. Mais il se trouve que certains airs de Mozart sont plus connus que d'autres, et celui-là ne l'est pas tellement. Et en plus, la conception de cet air mérite une petite anecdote. Alors voilà, Mozart a 21 ans, et en 1777, et donc il rencontre des gens qui habitent Mannheim, il s'appelle Weber. Et ils ont quatre filles. Alors, il y a la plus jeune, c'est Aloysia. Elle a 17 ans. Elle commence ses études de chant et Mozart tombe absolument amoureux d'elle. Et pour lui être agréable, pour lui faire plaisir, il compose pour elle un air d'une virtuosité extrême. Et cet air qui s'appelle... c'est un air de concert, c'est un air de concert, je veux dire, c'est pas tiré d'un opéra, hein, parce qu'il y en a qui sont tirés d'opéra, mais là c'est pas le cas, et on sait bien aussi que dans les opéras, Mozart a fait des traits particulièrement virtuoses pour des raisons affectives, alors pas pour Aloysia, mais pour une autre. Alors, toujours à propos d'Aloysia, donc pour terminer avec cette histoire d'Aloysia, donc Mozart lui écrit ce très bel air qui s'appelle Popoli di Thessalia, et donc les peuples de Thessalie, voilà, c'est tiré. Alors, c'est un texte avec de la musique dessus, donc je répète, c'est pas tiré d'un opéra, hein, c'est pas extrait d'un opéra. Donc, Mozart écrit ça, et puis là-dessus, il va faire une grande tournée un peu partout en Europe. Et quand il revient, finalement, Aloysia le reconnaît à peine, lui fait la tête, et n'a plus du tout de sentiment pour lui. Alors, Mozart, qui est un homme pratique, se dit qu'il va pouvoir peut-être essayer une autre sœur Weber, qui est elle aussi cantatrice. C'est ce qu'il va faire. Et donc, Constance Weber, qui est la sœur aînée d'Aloysia, va devenir l'épouse de Mozart, et c'est elle qui sera sa veuve aussi. Alors, je vous propose d'écouter donc cet air qui est tiré... Enfin, c'est une pièce qui est l'Alceste. Alors, Alceste, c'est une histoire de la mythologie grecque. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un de ces jours. Et ça n'est pas, et en tout cas, ici, ça n'est pas comme le personnage de Sempé dans Le Petit Nicolas. Vous savez, Alceste, c'est un copain de Nicolas, c'est un gros qui mange tout le temps. Alors là, non, c'est pas celui-là. C'est une héroïne et, qui est mariée à quelqu'un qui s'appelle Admète. Bref, un air formidable, et quand je dis formidable, c'est extraordinaire, mais aussi d'une difficulté redoutable, interprétée par Sabine de Vielle qui est une chanteuse extraordinaire, c'est notre plus grande chanteuse française actuelle, et puis c'est peut-être la plus belle aussi, et Raphaël Pichon, donc, et l'ensemble Pygmalion.
Oh, Oh.
Pas rien, vous avez vu une virtuosité extraordinaire donc cet air que Mozart avait écrit pour Aloysia Weber et qui était chanté là par Sabine de Vielle, magnifique soprano coloratour, et puis alors vraiment elle rate pas une note, je crois qu'il y a des mi bémol aigu, enfin c'est voilà, c'est quelque chose de carrément acrobatique. On change pas tellement de siècle. Un petit peu plus tard, c'est Donizetti. On connaît Donizetti pour ses opéras, surtout pour. Je vous jure que c'est vrai, il y a un opéra de Donizetti qui s'appelle La fille du régiment. Voilà, qui est une espèce d'opéra patriotique. Et puis, il est connu aussi pour Lucia di Lammermoor. Alors, il a écrit également de la musique de chambre. Alors là, je vous propose d'écouter un instrument qu'on entend rarement, c'est le cor anglais. Alors, on raconte, on se demande pourquoi c'est le cor anglais. Certains disent qu'il faut comprendre, c'est une erreur de transcription pour la graphie, c'est-à-dire non pas anglais A-N-G-L-A-I-S, mais anglais G-L et accent aigu, parce qu'il fait un angle. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est le bocal, ça s'appelle l'espèce de petit tuyau où on fixe l'anche double, fait un peu un angle, mais enfin, alors on a proposé aussi que c'était une corruption de l'expression angelisches Horn, le cor angélique qui serait devenu cor anglais. C'est peut-être plus vraisemblable. En tout cas, je vous propose d'écouter un concerto pour cor anglais de Donizetti, il n'y en a pas énormément. Interprété par ce sont des oboïstes généralement qui jouent de ça. C'est Josef Kiss qui joue du hautbois et du cor anglais. Et le cor anglais s'entend beaucoup, par exemple, dans Berlioz, dans la Symphonie fantastique, dans la scène au chant. Il y a beaucoup de solos de cor anglais, mais à part ça, on n'a pas tellement l'occasion. Donc voilà, vous allez entendre ce concerto de Donizetti pour cor anglais.
Thank you.
Voilà, c'était ce concerto, vous avez entendu, dans son intégralité, et non pas dans son entièreté, comme je l'entends dire de plus en plus. Voilà, donc de Gaetano Donizetti, il est mort en 1848, et donc c'était un concerto pour cor anglais et orchestre, assez virtuose. Je ne sais pas pourquoi, je me dis que Donizetti avait dû composer ce concerto pour un ami à lui qui aimait beaucoup le cor anglais, parce que ça n'a pas de spécificité particulière. Enfin bref, voilà, c'est toujours agréable à entendre. Alors, premier livre de cette émission, donc de Alain Chiffre, Dictionnaire amoureux du bonheur. Alors vous connaissez chez Plomb ces dictionnaires amoureux de ceci, cela et autre chose. Je me rappelle avoir... parler du dictionnaire de Denis Oliven qui s'appelle le dictionnaire amoureux des juifs en France et de bien d'autres. Alors, parmi les amoureux, il y a le dictionnaire amoureux des dictionnaires. Ça, j'aime bien. Voilà, quelqu'un qui aime et qui, bien sûr, a été écrit par Alain Rey, le lexicographe qui est décédé. Et puis alors, il y en a quelques-uns aussi qui sont tout à fait savoureux. Par exemple, celui-ci, Dictionnaire amoureux de la justice. Et tenez-vous bien, c'est de Jacques Vergès. Jacques Vergès, l'avocat. Bon, après, voilà. Alors, parler du bonheur, c'est quand même bien difficile. Le bonheur, alors vous savez, je crois que c'est Saint-Just qui avait dit, sous la Révolution, qui avait dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Et effectivement, l'idée... d'un bonheur qui pourrait être un bonheur terrestre, est une idée qui n'a pas été toujours présente dans l'esprit humain. Et je dirais presque au contraire, pendant très longtemps, on redoutait l'au-delà, on redoutait une survie mais pénible et malheureuse, on redoutait un jugement dernier qui nous enverra tout droit en enfer. Et puis petit à petit, on commence à parler du bonheur, et cette idée va éclore au XVIIIe siècle. Je rappelle, la chose est assez connue, mais on a toujours plaisir à la rappeler, que dans la Constitution américaine, dans la Déclaration des droits de 1776, parmi les droits fondamentaux de l'être humain, il y a la recherche du bonheur. Ils ne disent pas le droit au bonheur, ils disent la recherche du bonheur. Alors, Alain Chiffre, donc, je m'attendais à un dictionnaire un peu philosophique sur le bonheur. Alors, en fait, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit de toutes petites choses qui peuvent nous rendre heureux. Et donc l'idée que le bonheur ne serait pas une sorte d'état qu'on aurait atteint grâce à ses qualités propres, mais ce serait la succession de petits bonheurs, de petites choses qui nous font plaisir et qui nous mettent de bonne humeur, au moins pour un moment. Et je dois dire, évidemment, qu'à l'inverse, il y a quantité de choses qui nous mettent de mauvais poils pour un moment. Et l'administration française en particulier, ces temps-ci, s'ingénie à trouver toujours des choses plus compliquées, plus pénibles, et pour nous foutre de mauvais poils du matin au soir et du soir au matin. Tous ceux qui ont essayé de remplir un dossier, par exemple, de ma prime Rénov', me comprendront. Alors, donc, Alain Chiffre, alors, quelques-uns de ces petites choses. Et c'est vrai, quelquefois, alors, il aime bien aussi le bonheur apporté par un plaisir un peu coupable. Un peu. Alors, par exemple, l'œuf mayonnaise ou de chipper de la mayonnaise au frigo en se disant que c'est pas bon pour la santé, que c'est gras, etc. Mais enfin, on aime bien. Voilà. Et c'est vrai. Bon. Même chose, le plaisir qu'il peut y avoir à fumer la pipe un peu clandestinement, en se cachant un peu. Voilà, alors c'est toute une série de choses comme ça, de petites anecdotes. Voilà, par exemple sur les grands-mères, ceci. L'homme est le seul animal qui se souvient de sa grand-mère. Ça tombe bien, il n'y a que lui pour aimer à ce point les œufs à la neige et la mousse au chocolat, qui sont les desserts de grand-mère, ainsi que la tarte à la rhubarbe, le pain perdu, la crème à la vanille. Et non seulement à des recettes, etc. Et après, et un joli texte sur les grands-mères et sur sa grand-mère. Les grands-mères ont un grave inconvénient, c'est qu'elles disparaissent assez vite, hein, parce que généralement, elles ne sont plus toutes jeunes. Et donc, elles meurent comme les autres. Alors voilà, des quantités de c'est par lettre, hein, avec des entrées, comme tout dictionnaire qui se respecte. Alors, y en a un que j'ai bien aimé. Alors, il y a deux choses que j'ai bien aimées. Je cherche à l'article femme. Femme. Ah, les femmes. Point. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Comme quoi, peut-être, soit il n'a rien à dire sur les femmes, soit il n'en pense rien, soit il pense que les femmes sont tout à fait incapables d'apporter le bonheur, soit je ne sais quoi. Voilà. Alors, il y a une chose que j'aime bien, c'est sa vision du Moyen-Âge. Ça s'appelle Moyen-Âge, tout simplement. Alors, Montlhéry venant du Sud est le début des bouchons pour beaucoup, et pour moi, c'est le lieu mémorable d'une bataille sanglante qu'est livra Louis XI à Charles le Téméraire, alors comte de Charolais. Voilà. Et alors, il nous explique comment il aime le Moyen-Âge, mais non pas le Moyen-Âge des savants, car ce qu'on appelait la nouvelle histoire et l'école des annales, alors avec des choses extrêmement savantes, le dépouillement d'archives, de parchemins, de manuscrits, et des conclusions tirées sur les variations du prix de l'avoine en Haute-Castille au XIIe siècle. Non, nous dit-il, moi je préfère les films que genre Ivanhoé, etc. Donc c'est une espèce de livre de quelqu'un qui assume toute une série de petites choses de mauvais goût ou de mauvais genre, mais qui pourtant apporte le bonheur, chacun le sien. Moi, je crois que finalement, l'intérêt de ce livre, il est double. Premièrement, ce sont des petits articles, donc on peut le lire facilement, par exemple, avant de s'endormir. L'autre, c'est qu'il nous aide à adopter une attitude positive et attentive pour savourer les petites choses qui peuvent nous apporter un petit bonheur, futile, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots. Voilà, donc c'est Alain Chiffre, Dictionnaire amoureux du bonheur, et c'est aux éditions Plon. Alors, je vous propose d'écouter, pour enchaîner, un musicien assez peu connu qui s'appelle Caccini. Caccini, c'est un contemporain d'Henri IV. Il avait été invité par le roi Henri IV. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Et alors, il a laissé beaucoup de madrigaux, et il avait fait une sorte d'ensemble avec sa famille. Voilà. Et il allait un peu partout, il se promenait en Europe, et il donnait des récitals de madrigaux. Ce qui est très rare, car à l'époque, le musicien était une sorte de domestique spécialisé. Il faut se rappeler que Joseph Haydn, qui a été une gloire extraordinaire, Joseph Haydn portait la livrée du prince Esterhazy quand il était dans son domaine d'Esterhazy, comme les autres domestiques. Même si, un peu plus tard, quand Bonaparte est entré dans Vienne, il a envoyé un piquet d'honneur, donc 5 ou 6 militaires, pour monter la garde devant la maison de Haydn. Alors voilà, donc je vous propose d'écouter un madrigal donc de Caccini.
Amor, io parto e sento nel partire al penar, al morire. Io parto da con lei, che la mia vita se
voilà, ben vous avez entendu ce madrigal de Caccini. Caccini, alors c'est de la musique qui date du tout début du XVIIe siècle. Voilà. Est-ce que vous connaissez Michel Corrette? Oui, il a un nom très français, typique de la musique de cette époque. Hein, beaucoup de musique d'orgue, mais pas que, puisqu'il nous a donné ce Carillon des morts, ben oui, c'est comme ça. Alors, que je vous propose d'écouter, interprété par l'ensemble Musica Antiqua de Cologne, sous la direction de Reinhard Goebel. C'était le Carillon des morts de Michel Corrette. Alors, dernier livre de notre émission, c'est le livre de Julien Bouissou, « Juste avant la frontière ». C'est aux éditions de l'Olivier. Et alors, c'est un petit livre, en ce sens qu'il fait 120 ou 130 pages. C'est un très joli petit roman. C'est l'histoire d'un jeune homme. Il est allé dans un pays, il y est resté 4 ans, il est allé dans un pays qu'on imagine, enfin d'après ce qu'il dit, que c'est la Hongrie sans doute. Il est visiblement cadre commercial, peut-être sort-il de HEC ou de quelque chose comme ça. Et il va partir, il va rentrer en France parce qu'il a achevé son contrat. Tout s'est bien passé. Alors, tout est par petites touches. On songe à du pastel, si c'était des arts visuels. Vous voyez, c'est des petites touches, mais une série de petits souvenirs qui lui reviennent. Et le lendemain, il va prendre l'avion et rentrer à Paris. Les souvenirs de ces 4 années lui reviennent, surtout des histoires d'amour. Alors, une fille qu'il a connue et à qui il dit « Oui, mais tu viendras me voir à Paris », etc. Et elle ne se fait pas tellement d'illusions. Elle lui dit « Oui, sans doute, peut-être, enfin, vraiment, c'est pas certain. » Vu qu'elle a déjà essuyé le même genre d'ennui avec un autre qui lui a dit qu'il partait à Munich pour chercher du travail, mais bon, c'était surtout par politesse. Il y a un moment aussi où le héros s'appelle Sam Elliott, et il rencontre deux petites bohémiennes qui sont dans la rue et qui lui proposent carrément du sexe s'il leur donne des cigarettes. C'est des gamines, alors bien sûr, ça le fait rigoler. Voilà, un souvenir de rue. Et puis, il rencontre ses deux amis IES qui l'accompagnent à l'opéra. Voilà, ce sont de petites choses, rien d'extraordinaire, mais très charmant. De jolies impressions, et il faudrait peut-être pas que ça soit plus long que ça, mais c'est très bien vu, et je trouve que les éditions de l'Olivier qui ont édité Julien Bouissou ont bien fait de publier son livre juste avant la frontière. Je vais regarder la bibliographie de Julien Bouissou, et peut-être c'est quelqu'un de fort doué et et qui écrit très bien, c'est un style très fluide, très, très joli, très facile à lire en même temps. Voilà, la suite de sa production est certainement intéressante et je vous en parlerai. On a peut-être le temps d'écouter un petit peu de musique. Peut-être on a le temps d'écouter quelques mesures de Michel Blavet, non pas un flûtiste, ou si il était flûtiste aussi, un musicien du 18e siècle français. Thank you. bien sûr, c'est du Bach, vous l'avez reconnu. Et ce sont des pièces de Bach, en particulier des partitas, qui ont été instrumentées, qui ont été orchestrées par d'autres musiciens. Et très belle interprétation de toutes ces œuvres. Alors, il y a des œuvres de Michel Blavet aussi, mais c'est par les Keuken, Franz Brüggen, qui est à la flûte à bec, Sigiswald Keuken au violon, et Wieland Keuken à la viole de gambe. Alors, eh ben c'est fini pour cette semaine, mais nous nous retrouverons, je l'espère, la semaine prochaine pour sur de nouvelles barricades mystérieuses. Salut à toutes, salut à tous.